France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Gérard Garouste. À 19h40, affaire critique, Lucille Comeau a regardé la série produite et pour partie réalisée par Michael Mann, Tokyo Vice, elle nous livrera son analyse. 19h45, affaire en cours. Les journées du patrimoine ont lieu dans toute la France ce week-end. Marie Sorbier a été à Deauville rendre visite à Philippe Normand, directeur artistique du Centre culturel des Franciscaines. 19h50, affaire à suivre, comme chaque vendredi, un artiste en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis ce soir, le compositeur Roque Rivas. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Jean Frédéric et Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir Gérard Garouste.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir pour une très riche actualité qui m'offre l'occasion de cette invitation. Alors, déjà je vais décliner une exposition rétrospective au Centre Pompidou, à voir jusqu'au 2 janvier, accompagnée de la publication d'un riche catalogue. Le Grand Atelier de la Source, c'est aussi une exposition atelier proposée dans la Galerie des Enfants, toujours au même Centre Pompidou. Là, il y a une publication de livres jeunesse. Il y a aussi une programmation associée à ces deux expositions. Il y a l'exposition que vous faites avec Edouard Cohen à la Galerie des Arts Dessinés, qui est prolongée jusqu'au 1er octobre. Et puis enfin, votre autobiographie, L'Intranquille, écrite avec Judith Pérignon, est désormais disponible en poche, en collection proche, avec un épilogue évidemment inédit. Dans cette émission, chaque soir, on essaye de faire le portrait des artistes invités, de revenir sur quelques moments importants de leur parcours. Évidemment, on ne dira pas tout, mais ce livre-là, L'Intranquille, est une source, pour le coup, absolument précieuse de renseignements. Alors, pour dire rapidement, dire que votre enfance débute à Bourg-la-Reine, mère effacée, père violent, antisémite, marchand de meubles, qui avait récupéré les commerces de juifs déportés, les lévitants. Vous êtes, heureusement, c'est vous qui le dites, placé en pension à l'âge de 11 ans. La chance de votre vie, hein, c'est vraiment vous qui l'avez dit. Vous y rencontrez notamment Jean-Michel Rimbe. À la pension du Monseil aussi, il y avait un grand parc. Et puis, beaucoup d'insectes. Vous rêvez entomologiste. Autre souvenir heureux, toujours à la campagne, les vacances chez votre oncle et votre tante en Bourgogne. Cet oncle qui était maçon, tailleur de pierre, bûcheron et... Artiste brut, dira Dubuffet un peu plus tard. Puis les animaux qui sont là, l'imaginaire du conte qu'on retrouvera dans votre œuvre. Dire, enfin, et je m'arrêterai là pour le résumer, qu'ayant raté le bac, ce qui est tout à fait honorable, vous entrez à l'école des Beaux-Arts qui, à l'époque, ne demande pas de ce diplôme-là. Mais c'est pas que par dépit, parce que le dessin, Gérard Garouste, il arrive quand même très tôt dans votre vie. Est-ce que vous comprenez comment et pourquoi vous vous êtes mis à dessiner?
Bien, parce que c'était la seule solution dans ma vie, quoi. C'est-à-dire, j'avais des problèmes psychologiques très tôt. Et vous savez, à l'âge où les petits enfants font des progrès en dictée, en calcul, où la maîtresse apprend ce que c'est qu'une addition ou une division, moi j'étais incapable de me concentrer et un peu comme un enfant qui cherche, qui se noie et qui veut trouver une, bah, il restait. Tous les enfants dessinent, mais moi peut-être que c'était la seule manière de survie de faire ces dessins. Donc j'ai toujours dessiné, j'ai pu séduire mes maîtresses et mes petits copains en faisant les dessins de fin d'année, etc., de fête des mères. Voilà, donc j'existais parmi les autres. Donc voilà, j'ai jamais quitté le dessin et plus tard, évidemment, j'allais me retrouver aux Beaux-Arts.
Vous avez rencontré votre femme Elisabeth, alors vous étiez encore lycéen, alors donc vous faites les Beaux-Arts, vous dites que vous n'y appreniez rien, parce qu'il faut dire que l'époque n'était pas très propice à l'apprentissage de la peinture, qui n'était pas particulièrement bien vue à ce moment-là, mais par contre vous apprenez beaucoup à l'Académie de la Grande Chaumière, et en vous rendant très souvent au Musée du Louvre, en regardant les grands maîtres espagnols, Greco, Goya, Velázquez. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant?
Eh bien, il faut pas oublier l'actualité de l'époque. On est dans une époque très très moderne, très avant-garde, iconoclaste.
La fin des années 60.
Oui, mon grand-père, c'est Picasso, Matisse, ce sont des génies, mais très iconoclastes quand même par rapport à la peinture classique. Et alors arrive la cerise sur le gâteau, si on peut dire, quand j'étais aux Beaux-Arts, arrive un homme incroyable, c'est Marcel Duchamp, qu'on découvre dans les propos de Pierre Cabanne. Et là, moi, j'ai pris ça comme un coup de pied dans l'estomac, parce que mettre un urinoir dans une galerie et d'appeler ça une fontaine et de dire l'artiste, c'est pas celui qui a fait l'œuvre, c'est celui qui la regarde. Là, on n'est plus dans l'histoire de l'art, on est dans une philosophie de l'art. Et moi, j'étais franchement perdu parce que justement, moi, j'aimais dessiner et peindre. Je me rassurais avec mes petits dessins, mes petites peintures. Et donc, il y a un côté. Quelle est la solution? C'est retour à la case départ, et donc finalement, tabula rasa, on retourne dans les musées et on voit quelles sont les issues possibles à partir des grands maîtres. Donc regarder de près ce que c'est qu'une ébauche, regarder un empattement, un glacis, la technique de la peinture. Est-ce qu'il y a des solutions dans cet espace qui est l'espace du tableau? Avec un peu de temps, oui, il y a en effet des solutions, des portes de sortie, et c'est le sujet. C'est-à-dire, j'ai pas inventé mon métier qui est très classique en fait, mais le sujet, lui, la manière d'aborder le sujet, il a été dès le début un peu particulier.
Et puis, vous l'avez dit, des problèmes psychologiques enfant, 70, vous avez 24 ans, vous êtes diagnostiqué bipolaire. Vous racontez alors de façon très très précise et sans fausse pudeur vos crises dans le livre L'Intranquille. Pendant 10 ans, vous allez alterner crise, internement, moment de répit. Votre épouse tient la maison, il faut la citer encore une fois, vraiment en vous épaulant d'une façon absolument admirable. Alors pour autant, cette décennie, elle est quand même pas vide de travail ni d'avancée. Alors il y a les amis, comme Jean-Michel Rime par exemple. Écoutez cette archive de 71 avec Yves Morosi.
Au théâtre de Plaisance, transformé pour la circonstance en gare maritime par Gérard Garouste, 13 comédiens ont embarqué sous la direction de Jean-Michel Ribes à bord du Sycomore. Un bateau sur lequel l'équipage danse sous la direction de Sandra Drey, chante sur une musique de Raymond Le Sénéchal, le musicien du bal du comte d'Orgel, et bien entendu joue la comédie.
Le capitaine de Menton pousse la chaulière. Il veut profiter du temps calme pour augmenter la vitesse.
Assez! Ou je te fous dans ma chaudière. 3000 degrés. Tu m'entends? 3000 degrés. D'ailleurs, le jour est proche. Ou je vous y foutrai tous dans ma fournaise. Tous ceux de là-haut. Tous ceux qui prennent le frais sur le pont. Le frais. J'ai oublié le coup du frais. Ma peau ne sait plus ce que c'est que le frais. À force de cuire pour que le sycomore avance. Non, savon, non. Le sycomore ne marche pas au petit four. Il marche à l'homme. C'est moi le combustible. Regarde, je brûle, savon.
Il faut que le sycomore coule. Et il y avait même René Saint-Cyr qui jouait dans ce spectacle. C'est extraordinaire. Mais pour dire que les amitiés sont importantes, parce que quelques années plus tard, Jean-Michel Ribes, encore lui, vous demande de réaliser les décors de sa pièce Jackie Paradis au Théâtre de la Ville. À même époque aussi, où à peu près Fabrice Aimer vous confie les décors du Palace, la boîte mythique parisienne. Vous avez de très belles pages d'ailleurs sur votre relation avec Fabrice Aimer. Ces mains tendues, Gérard Garouste, elles ont été importantes.
Oui, parce que avant c'était un peu n'importe quoi. Je passais d'une chose à l'autre. Et j'étais en fait pas vraiment professionnel, quoi. Même si je faisais un décor de théâtre de temps en temps, avec Fabrice Aimer, il m'a vraiment donné la responsabilité de cet étrange théâtre qui était un théâtre classé, avec une particularité, c'est que ce théâtre à l'italienne. Pouvait devenir une boîte de nuit si on mettait tous les planchers façon piste de danse, mais par contre le public n'avait pas le droit d'être sur scène. Donc j'avais la responsabilité de faire des décors dans la cage de scène sans comédien, sans mise en scène, sans rien, juste pour le plaisir. Alors c'est la joie pour un décorateur de théâtre. Et donc j'ai fait des décors comme ça. Avec cette chose étonnante, c'est que je voulais être peintre, je voulais être, et donc je ne voulais pas faire de ma vie décorateur de théâtre. Donc je faisais une chose particulière, c'est que j'empruntais des corps de théâtre très connus, Bibiena par exemple, classiques, des hyper classiques, et à cette époque-là, on découvrait les premiers lasers, la première technique des lasers qui étonnait tout le public, vraiment, il y avait des choses, des effets de lumière. Alors, entre côté très classique des décors à l'italienne peints par des peintres de théâtre et les éclairages qui étaient très étonnants, voilà, c'était la particularité de mes décors. Et la boîte de nuit fonctionnait très bien. Et vous parlez de Fabrice Aimer, mais c'est quelqu'un, en effet, avec qui il m'a vraiment protégé beaucoup. C'est quelqu'un qui a été très important pour moi. Vous savez, je voulais être peintre, donc je travaillais dans la journée, je faisais des tableaux, mais vers 6h du soir, j'allais me coucher, j'avais trouvé le rythme, je dormais jusqu'à minuit, 1h du matin, et à 1h du matin, j'allais au théâtre, j'allais au palace, pour moi commencer la soirée, et la soirée à 1h du matin, c'est rien du tout, oui, pour le palace.
Le tout début.
Et donc, jusqu'au petit déjeuner, le petit déjeuner du palace était extraordinaire, c'était vraiment, c'est un vrai plaisir. Et puis, après, je raconte, avec deux ou trois amis, on accompagnait Fabrice chez lui, rue de Rivoli. Et là, vraiment, et tout d'un coup, c'était plus le prince de la nuit, dire des choses rigolotes. Non, il me donne pas envie, il savait que j'allais partir à New York chez Leo Castelli, c'était les premiers contacts sur New York. Il me donnait des contacts, des conseils sur New York tout à fait importants.
Et puis, quand même, dans cette décennie-là aussi, des années 70, pas vite, bien au contraire, parce qu'il y a ce rêve dans lequel une voix vous dit, il y a deux sortes d'individus dans la vie, les classiques et les indiens. Comment une voix dans un rêve devient une toile et devient une série pour vous, Gérard Garoust?
Ben d'abord parce que ce rêve, donc je l'ai fait, et quand je me suis réveillé, je me souvenais de ce rêve et je le trouvais très très étrange. Deux sortes, vraiment, c'était une voix off, des classiques et des indiens. Alors j'aurais compris des classiques et des modernes, ou des indiens et des cowboys par exemple, mais des classiques et des indiens, je comprenais pas le rapport. Et en parlant à Jean-Michel Rive, qui a fait une licence d'espagnol, il dit, mais t'as fait un jeu de mots entre classique et cacique, parce qu'un cacique, c'est un chef indien, d'une part, et d'autre part, si tu regardes dans un dictionnaire, un cacique, c'est quelqu'un qui réussit dans n'importe quoi, surtout dans les grands examens, Sciences Po, etc. C'est un bête de concours, quoi. Et là, tout d'un coup, ça prenait du sens, parce que pour moi, l'Indien, c'est le côté un petit peu intuitif, un peu apache, comme on dit, ou un petit peu inconscient.
Et créatif.
Créatif, absolument créatif, alors que le classique, bon, c'est l'ordre, voilà. Et je crois que ce thème-là, vous savez, existe entre l'apollonisme et le dionysiaque, c'est un thème que, et il existe, et j'en ai fait des tableaux dans l'exposition, au cirque, avec le clown blanc et l'Auguste, le clown blanc dans son habit de lumière, comme ça, et puis l'Auguste qui fait... Alors, le clown blanc ne fait pas rire, hein, le clown blanc met en scène, comme ça, le comique, mais celui qui fait rire, c'est l'Auguste qui a des bosses comme ça qui se roulent par terre.
Toutes les couleurs, et qui fait les grimaces, et qui a le nez rouge. Quelques dates, avant d'en venir au cœur de notre entretien, sur votre pratique. En 80, pour la première fois, vous exposez à la Galerie du Rang des Serres. En 82, c'est la première exposition à New York. 83, la rencontre avec Castelli, qui vous prend sous son aile, en effet, l'immense galeriste américain. 87, un peu de reconnaissance en France au CAPC de Bordeaux. 88, exposition au Centre Pompidou. 89, le rideau de scène du Théâtre du Châtelet à Paris. Et puis un saut dans le temps pour dire qu'en 2001, vous rejoignez la Galerie Templon, qui vous représente toujours aujourd'hui. Qu'en 2009, donc, il y a la publication de ce livre, L'Intranquille. Et puis dire aussi qu'en 2017, vous entrez à l'Académie des Beaux-Arts, succédant dans le fauteuil à Georges Mathieu. Après cette farode dans la déformation, une pause s'impose. Vous nous avez proposé d'écouter du Schoenberg, donc on ne refuse pas ce genre de proposition. On va écouter Pierre Boulez diriger le début de La Nuit Transfigurée. Il était à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Concert enregistré à la salle Payel en 2009. On s'arrête là pour l'instant. Chacun peut continuer chez soi, mais parce que elle est puissante, cette musique de Schoenberg. Qu'est-ce qu'elle provoque en vous, Gérard Garoust?
Vraiment une émotion très forte. Vous savez, le matin, quand j'arrive dans l'atelier, dans cet atelier qui est très bien orienté, je commence toujours de chauffer l'atelier par de la musique. Mais par contre, par rapport à mon caractère, c'est pas obligatoirement la même musique. Ça peut être du Johnny Cash, comme de la musique indienne. Et puis aussi, en effet, Arnold Schoenberg, c'est possible. Pourquoi ? Parce que il faut que j'ai l'état d'esprit pour écouter tel type de musique. Mmh. Mais Schoenberg, c'est évidemment ce qui m'impressionne le plus. Je trouve ça émouvant. Moi, quand j'écoute dans l'atelier Arnold Schoenberg, il faut que j'arrête. Ouais. Je peux pas.
On peut rien faire d'autre.
On peut rien faire d'autre. On écoute. Et puis, et là, c'est un vrai, vrai plaisir parce que je vous dis, la lumière dans mon atelier mon atelier est un peu en hauteur, donc la lumière est frisante comme ça. Et donc c'est un moment très très privé. Ça détermine complètement la journée, quoi. Pour moi, voilà.
Alors justement, pour savoir un peu comment se passent ces journées, il faut revenir à ce qui provoque, génère les œuvres chez vous, Gérard Garoust. Alors on sait que les livres ont été et sont toujours importants, les écrits, la Divine Comédie, le Don Quichotte, ou les écrits de Kafka aussi, encore tout récemment à la Galerie Templon. C'était il y a un an ou deux qu'on a pu voir une exposition d'après. Kafka, si je puis dire. Vous expliquez que dans votre carnet, vous prenez des notes, vous dessinez à partir de tout ce qui vous inspire. Et vous expliquez que dans vos carnets, rien n'est en couleur, mais que vous les voyez. Et de même, donc, lorsque vous entrez dans votre atelier pour débuter une toile, la toile est déjà dans votre esprit?
Oui, il y a un respect. Le dessin, en effet, est là. C'est-à-dire que ces dessins dans mes carnets, il y a plusieurs carnets, et puis d'un coup, je découvre un dessin que j'ai fait il y a plusieurs mois, il y a 6. Et je me dis, tiens, ça pourrait faire un tableau. Et je m'inspire complètement de ce dessin, mais en effet, c'est vraiment une mine de plomb. C'est pas une ébauche avec de la couleur et tout ça. Non, ça y est, quand je vais commencer le tableau, en effet, il est dans ma tête, je le vois. C'est-à-dire, c'est comme si, j'emploie toujours cette expression, je commence le tableau, mais à un moment, très vite, c'est le tableau qui décide. Moi, je ne fais que suivre le tableau, parce que j'ai l'impression qu'il s'impose de lui-même. Tel rythme, telle forme, impose telle couleur. Il s'agit d'un paysage, donc tout d'un coup, je peux avoir une envie de faire quelque chose de très choquant, ce qu'on peut voir dans l'exposition. Ouais. Un ciel orange, par exemple, tout d'un coup, très orange. Mais s'il y a un ciel orange, alors qu'est-ce que je vais faire de l'herbe, et il y a tout d'un coup, ça se construit d'une manière logique, mais tout d'un coup, pas du tout logique dans ma tête, mais en tout cas pas en brisant complètement les lois de la nature, quoi. Vous savez, et quand je suis proche de la nature, ce qui m'inspire, c'est pas la nature telle qu'elle est, c'est la nature vue à travers les peintres que j'aime, c'est-à-dire aussi bien Corot que Manet, que même un Giorgio de Chirico, ce sont eux mes maîtres, et à la limite, si je dois imiter la nature, c'est eux, je pars chez eux.
Ouais. Encore une fois, retour vers les origines, retour vers les maîtres, retour vers les grands maîtres de la peinture, et retour... évidemment, la transition est facile au texte. Oui. Alors, à commencer par la Bible, que vous commencez à lire, vous, le camp créternel, hein, je vous cite, hein, je ne me permettrai pas, vous choisissez l'érudition plutôt que la provocation. Le retour au texte, un retour aussi au sens, en déconstruisant toutes les interprétations successives. Et par exemple, vous en parlez dans le livre, ce Christ non circoncis, donc non-juif de Bellini et de tant d'autres. Bon, cette lecture de la Bible vous amène vers la Torah vers l'hébreu, l'hébreu vers le Talmud, donc vers l'interprétation et puis vers la Kabbale. Avant de parler avec vous de l'influence de ce parcours d'études dans votre œuvre, on va écouter un court extrait de Marc-Alain Wachnin sur France Culture. C'était au micro de Michel Cazenave.
C'est pas un texte énigmatique, mais il y a une règle du jeu qui est donnée. C'est-à-dire en fait, ce n'est pas simplement un livre, c'est un jeu. Et la règle, c'est que on peut interpréter, non seulement je dis on peut, mais c'est une erreur, on doit interpréter que cette aventure du jeu ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture solitaire d'un homme devant le texte, ça se fait en communauté, on est au moins à deux. Et la règle du jeu, c'est de dire, je te donne une interprétation, mais toi tu as l'obligation d'en donner une qui est différente. Et c'est un petit peu comme un jeu d'échecs, si vous voulez. C'est-à-dire que les pièces du jeu, ce sont les lettres du livre, et chacun doit avancer son coup, comme aux échecs. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture qui devient un jeu? Je crois que c'est surtout quelque chose, comme vous l'avez dit, qui ne doit pas être dogmatique, c'est-à-dire comment faire en sorte pour que justement le texte puisse signifier autre chose que ce qui serait une vérité que l'on doit nécessairement imposer. C'est-à-dire en fait, comme dit Ricoeur que je cite, comment avoir la liberté d'inventer des sens pour inventer sa propre liberté. L'enjeu, je crois qu'il est éminemment existentiel, c'est-à-dire je suis libre, mais ma liberté sera herméneutique. Ça veut dire que si on veut prendre des références que l'on connaît aujourd'hui dans la culture, si on veut se référer à Sartre, par exemple, qui dit que l'homme est condamné à être libre, d'accord, il est condamné à être libre, mais qu'est-ce qu'il fait de cette liberté? Alors, il peut tomber dans l'ivresse, dans le vertige, dans la nausée, dans tout ce qu'il a expliqué. Moi, je dis que je suis non pas condamné à être libre, mais je suis condamné à interpréter, et ma liberté est liée à cette interprétation. C'est-à-dire que ma liberté, elle est herméneutique, c'est-à-dire que le monde, comme le livre, est fait de signes, et ces signes que je rencontre, j'accepte ou n'accepte pas de les interpréter.
Comme toujours, Marc-Alain Wachnin, extrêmement clair, extrêmement précis. Je pense qu'il a. C'était pour ça qu'il fallait l'entendre un peu sur cette durée-là, parce que cette liberté dont il parle, vous l'avez trouvée, vous, Gérard Garouste, à travers ce chemin d'études.
Vous savez, j'ai fait avec Marc-Alain Wachnin ce qu'on appelle une ravouta. Une ravouta, c'est une étude à deux, justement. C'est pas un cours, c'est un échange comme ça entre un maître et son élève. Et là, il se passe des choses tout à fait extraordinaires, mais ça va un peu dans les deux sens, d'après ce que dit Marc-Alain Wachnin. Moi, je trouve que ça va plutôt dans un sens. Mais bon. Et là, c'est d'une richesse absolument extraordinaire, parce que en effet, on n'est plus dans une histoire qui se raconte, Bereshit, enfin la Genèse qui se raconte, très jolie histoire. Là, on est tout d'un coup dans les associations de mots qui nous renvoient à des contresens, des correspondances de mots, et qui dit ces mots, chaque mot, tout d'un coup, on a l'impression que le texte est là pour mettre en scène les mots. Le texte est secondaire par rapport à la valeur des mots, et les mots sont composé de lettres, et les lettres sont très importantes. Donc, on est dans une autre dimension de lecture, et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Il y a des méthodes de travail, et après, avec un peu d'expérience, on peut s'amuser, mais c'est presque un jeu. Il parlait des échecs. En effet, l'échec, vous savez, il y a aussi cette idée que on est, quand on lit le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, on est toujours devant le même texte, comme on est toujours devant le même fleuve, mais on n'est jamais devant la même eau. Et un kabbaliste, l'idée, c'est que devant ces mots, c'est jamais les mêmes. Il faut que ce texte soit le vôtre.
Alors ce chemin, le chemin de Gérard Garouste, on peut le voir magnifiquement décliné en ce moment au Centre Pompidou, dans cette exposition rétrospective extrêmement riche dans la commissaire et Sophie Duplex. Et on peut voir que cette notion de dialogue, elle est pour vous très importante, alors à l'intérieur même des toiles, mais le dialogue bien sûr avec le public, le dialogue avec qui regarde vos œuvres, Gérard Garouste. On parle souvent de la dimension mystérieuse de vos toiles, mais la peinture... Là encore, elle met en scène un secret, et elle pose des questions. C'est ça qui est important, c'est toujours poser des questions.
Oui, mais si on est un peu observateur, le monde entier, la vie pose des questions. Vous ne trouvez pas qu'ici, dans ce studio, on est...
Constamment. On est entouré de questions.
On est entouré de questions. La peinture, il y a un paradoxe, parce que, surtout en tous les cas dans ma peinture, ce sont plutôt des jolies images qui, dans un premier, donnent du sens, comme ça, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que quand même,
il y a des choses bizarres, quand même.
Il se passe des choses bizarres, et tant mieux si ça pose des questions, mais les réponses à chacun ses réponses, on n'est pas dans un discours de vérité. J'ai mes vérités dans l'atelier, mais mes toiles sorties de l'atelier, elles appartiennent à celui qui les regarde.
Alors comment est-ce que vous avez regardé votre rétrospective? Quel effet ça produit sur vous, Gérard Garouste?
D'abord, ça fait plaisir, parce que je trouve ça formidable que quelqu'un comme Sophie Duplex, qui est donc la commissaire de l'exposition, qui a travaillé avec Corinne Marchand, qui est un élément important, parce que Corinne Marchand fait la scénographie.
Et très là, importante.
Là, toutes les deux, et puis même toute l'équipe, la presse, tout ça, c'est une grande famille, hein, le centre Pompidou. Et ça fait tout d'un coup plaisir que toute cette aventure de ce grand musée international se penche un peu sur ces toiles que vous aviez oubliées. Moi, j'ai redécouvert des toiles que je croyais perdues, une toile en Tchécoslovaquie qui avait été vendue par Léo Castelli, et Léo m'a dit, on peut plus remettre la main dessus et tout ça. Bon, là, le Centre Pompidou remet la main sur cette toile. Bon, il y a des bonnes découvertes. Mais de toute façon, vous savez, avant, il y avait ces tableaux, mais de toute façon, tous ces tableaux sont dans mes carnets. Moi, mes carnets sont très importants. C'est un journal, en fait, c'est une sorte de journal, croquis de notes, etc. Et donc, j'ai tout ce parcours dans mes carnets.
Oui, parce que vous dites dans l'intranquille, alors je pense que c'est dans la première version, si je puis dire, à un moment, je crois que vous dites, j'ai peint 600 tableaux, aucun n'a de date. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans, donc il y en a encore de nombreux autres. Et ça veut dire que vous avez tous ces carnets, toute cette mémoire-là de votre parcours?
Oui, oui, oui.
Et vous les regardez de temps en temps?
Ah, beaucoup. Oui, parce que il y a tout d'un coup, vous savez, quand au moment où je fais ces dessins dans mes carnets, j'ai pas de recul. Et évidemment que ceux qui sont les plus intéressants, ce sont ceux qui sont le plus hermétiques, le plus inaccessibles. Donc il faut attendre. Et tout d'un coup, quand je revois mes dessins que j'ai faits il y a 2-3 ans ou même il y a 10 ans, je me dis, mais il faut absolument que j'en fasse un tableau. Et c'est le cas. Tout d'un coup, je ressors ces dessins et ça donne un... Je suis jamais, jamais dans l'atelier devant une toile vierge, une toile blanche, en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Ça, je connais pas. Peut-être parce que j'ai la trouille, mais je n'ai jamais cette... J'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire avec mes carnets. Donc, voilà, et tout d'un coup, en faisant une sélection de ces dessins, c'est les choses sympas. Vous savez, par exemple, justement, moi je voulais pas les montrer, mes carnets, dans l'exposition, et Sophie Duplex me dit, mais il faut absolument les transmettre.
T'as raison.
C'est intéressant. Et donc elle a fait une espèce de vitrine où il y a deux carnets ouverts, et puis même il y a les pages qui tournent dans une vitrine comme ça. Je trouvais ça un petit peu, je sais pas, j'en voyais pas l'intérêt. Et je suis le premier étonné et d'en voir l'intérêt. Maintenant que je les vois, je me dis, ah, mais oui, mais ça, vite, il faut que je leur fasse. J'avais envie de photographier les pages qui tournaient pour, comme un jour, je vais récupérer ces carnets. Ouais.
Ils sont encore plein de travaux
projets,
à venir.
Plein de projets.
À propos de projets, comme le temps file, je passe un peu du coq à l'âne, mais enfin, avec vous, le coq et l'âne, on les connaît. Il faut quand même évoquer La Source, cette association que vous avez créée en 1991, qui propose des ateliers créatifs qui sont animés par des artistes, qui sont en direction d'enfants, on va dire, défavorisés, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais ce qui est vrai, adressés par des services sociaux. En tout cas, il s'agit de les aider, notamment par l'éveil à l'art. La première Source a ouvert en 1994 à La Guérolle, dans l'Eure. Elle a depuis des petits ruisseaux, plusieurs sources en France. Alors vous dites, dans cette postface de l'intranquille, que voilà, il serait temps, à votre âge, de penser à passer la main. Quel est votre souhait, fondamentalement, pour l'avenir de la source, Gérard Garouz?
Vous savez, déjà, la peinture, ce que j'aime dans une rétrospective comme ça, c'est qu'elle a un projet, c'est la transmission. La transmission aux jeunes générations d'artistes, aux jeunes générations, les jeunes, tout court, c'est la transmission, c'est très important. Quand on a créé la source avec Elisabeth Garouz, en effet, c'est pour une enfance difficile, comme ça. Et quel est mon souhait? Ben, écoutez, maintenant, la source a plus de 30 ans. On est en train de travailler pour justement laisser la place. On a même pris des professionnels pour voir comment ça peut fonctionner, pour mettre en place une nouvelle source avec un nouveau président, des nouveaux directeurs, etc. Vous savez, il y a des belles réussites, par exemple l'école Montessori ou je sais pas quoi, des choses comme ça.
Bon, il faut Emmaüs, c'est pas mal aussi.
Oui, enfin par exemple, pour arriver à ce niveau-là, ouais. Ça demande une organisation, beaucoup d'efforts. Ça vient pas comme ça.
Mais ça, c'est important que ça continue, évidemment.
C'est très important.
Votre héritage, il passe aussi par la source.
Écoutez, ça serait dommage que la source s'arrête avec nous. Vraiment. Non, c'est la source, elle le fait, mais c'est du travail. C'est pas gagné.
Bon, bah, il faut qu'on puisse vous entendre pour vous aider dans cet accompagnement aussi pour que la source continue à vivre. C'est passé évidemment beaucoup trop vite avec vous, Gérard Garouz, on pouvait s'en douter, mais voilà, l'envie en tout cas de donner envie à celles et ceux qui nous écoutent de s'intéresser davantage encore à votre œuvre. Alors ils ont la possibilité d'aller voir cette formidable exposition rétrospective au Centre Pompidou jusqu'au 2 janvier, mais vous pouvez y aller plusieurs fois, c'est mieux. Exposition accompagnée d'un catalogue, le Grand Atelier de la Source, justement, ça c'est dans la Galerie des Enfants, toujours au Centre Pompidou, avec un livre jeunesse. Et puis, quelques jours encore, pour aller voir l'exposition Megillah d'Esther, dit le livre d'Esther, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Edouard Cohen, ça c'était la Galerie des Arts Dessinés, jusqu'au 1er octobre. Et puis, nouvelle édition, en poche, collection proche de Gérard Garouz avec Judith Pérignon, c'est le livre L'Intranquille. C'était important aussi que ça arrive en poche, parce que c'est un livre précieux à tous égards. Merci beaucoup, Gérard Garouz.
Merci beaucoup.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est à présent l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous avez vu pour nous une série produite et en partie réalisée par Michael Mann, Tokyo Vice.
Oui, dans le domaine des séries, il y a vraiment un gros ventre mou. Davantage, je trouve, que dans d'autres disciplines. Ce sont les séries qui sont presque bien. Il ne leur manque pas grand-chose, c'est un peu frustrant. Et c'est le cas de Tokyo Vice. Tokyo Vice est une coproduction américaine et japonaise, diffusée aux États-Unis par HBO Max. C'est l'adaptation d'un livre de non-fiction, écrit par le reporter Jake Alderstein. Le récit de sa propre expérience de jeune reporter à Tokyo dans les années 90. À l'orée du premier épisode, on le découvre se rendant à un rendez-vous avec ce qu'on devine être rapidement un patron de la pègre tokyoïte, dans une atmosphère de grande tension. Puis, la série opère un flashback sur ses premiers mois à Tokyo, son apprentissage de la langue, sa fascination naissante pour les Yakuza et son entrée après concours au prestigieux quotidien, le Meisho Shimbun. Dès lors, les 8 épisodes suivent chronologiquement les révélations, accélérations et stases de l'enquête. Jake se lie avec la police, avec le milieu Yakuza et aussi avec une jeune femme américaine comme lui, hôtesse dans un bar de luxe. La trame du thriller est classique, peuplée de motifs archi-connus du film de mafia, avec ses vieux sages, ses jeunes têtes brûlées, sa femme fatale bien sûr. Ce qui produit, au bout de quelques épisodes, une impression d'ennui un peu lancinant, il faut bien le dire. Un peu plus intéressant, ce qui se passe du côté du journal, où on peut suivre avec un peu de curiosité le fonctionnement d'une entreprise japonaise, bourrée de hiérarchies et de codes absurdes à l'œil occidental. Mais ce procédé finit par lasser aussi, d'autant que cette culture japonaise, hein, ses rituels du thé, ses politesses et sa gastronomie, ses bars colorés, ses love hotels et ses prostituées, on en a soupé au cinéma.
Comme vous y allez. Vous ne donnez pas tellement envie pour l'instant de regarder cette série, mais vous nous avez dit en ouverture qu'elle était presque bien cette série.
Oui, elle n'est pas complètement ratée, c'est vraiment dommage. Ça tient à deux choses. D'abord, son premier épisode qui est réalisé par Michael Mann. C'est un bon Michael Mann, rythmé, mis en scène dans les règles du thriller, avec d'efficaces effets de suspense, de l'humour, autour de la noirceur et toujours ce goût pour les architectures. Ce qui est véritablement passionnant dans ce pilote, au-delà de sa bonne facture policière, c'est la mise en espace d'un comédien, Ansel Elgort, le jeune acteur qui interprète Jake, et qui constitue le deuxième intérêt majeur du film. Ansel Elgort, il a 28 ans, il jouait Tony dans le West Side Story de Spielberg sorti l'année dernière, il a un joli visage tout poupin, mais surtout, il est grand. Il est très grand, il est trop grand. Plus grand que tous les Japonais. Trop grand pour passer les portes, trop grand pour ses adversaires de jujitsu. Le premier épisode de la série semble d'ailleurs filmer surtout ça, sa démesure, en utilisant la contre-plongée, en le plaçant dans des décors qui le restreignent, un bar minuscule sur le comptoir duquel ses coudes prennent toute la place, une petite chambrée où, assis en tailleur, il semble toucher les deux murs des genoux, un petit bureau sur lequel il doit composer pour prétendre à une place au journal. Même en mouvement, il est sans cesse gêné par les plafonds et les chambranles de toutes les portes qu'il doit franchir. À cette inadaptabilité physique répond en contre-champ le regard des autres personnages. La curiosité par exemple d'une petite fille assise en face de lui dans le métro, l'hostilité de ses nouveaux collègues qui le traitent de gaijin, l'étranger. Jake est pris dans un système ultra verrouillé dont l'architecture est à l'image la plus efficace métaphore. Cette inadéquation de l'acteur est beaucoup plus intéressante, qui dit dans la mise en scène la spécificité de la culture japonaise que tous les folklores et les exotismes trop explicatifs. Le premier épisode laissait imaginer que Jake constituerait le seul et unique point de vue de la série et son obsession un peu inexpliquée pour le Japon était un excellent rouage narratif, mais finalement, les épisodes suivants diluent une intrigue pas si passionnante dans des trajectoires parallèles, Samantha, l'hôtesse rebelle dont on devine trop facilement le passé trouble, ou encore Sato, ce jeune yakuza en formation dont le mystère typique du film noir est un peu trop typique. On tient pour Jake, pour son grand corps de comédie musicale hollywoodienne pris dans la ville japonaise, mais est-ce que ça va nous suffire pour aller au bout ? Rien n'est moins sûr.
Bon, vous êtes encore un petit peu amoureuse. Hein. Ansel Elgort,
bon,
je note.
Bon, non, pas spécialement.
Mais bon, c'est lui qui vous intéresse.
Oui, il est grand. Ah bah, ça, c'est sûr.
Il est trop grand.
Il est trop grand.
Tokyo Vice, la diffusion a commencé hier au soir sur Canal+. C'est l'heure d'Affaires en cours, à présent avec vous, Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Et ce soir, vous nous proposez, vous aussi, une petite idée de visite pour les journées du patrimoine.
Et oui, car comme chaque année, partout en France, les musées, les institutions ou autres lieux insolites deviennent accessibles et festifs le temps d'un week-end. Philippe Normand, bonsoir, vous êtes directeur artistique des Franciscaines à Deauville. Alors avant de nous raconter comment vous avez imaginé ces 39e journées du patrimoine, comment pourriez-vous définir ce centre culturel qui vient d'ouvrir il y a quelques mois ?
Alors les Franciscaines, c'est le plus vieux et le plus vaste bâtiment patrimonial de Deauville, un ancien couvent de la congrégation des sœurs franciscaines qui a été tour à tour un orphelinat, un hôpital militaire, un établissement d'enseignement pour jeunes filles, et qui dans les dernières années était un EHPAD pour religieuses du Grand Ouest, et quand les religieuses ont senti que le lieu n'était plus adapté pour eux, elles l'ont délaissé pour en construire un nouveau couvent, et la ville s'est portée acquéreur de 6200 m² d'une architecture 19e magnifique en briques jaunes et blanches et a décidé d'implanter sur cet endroit l'ensemble de l'offre culturelle de la ville. Donc les Franciscaines, c'est un lieu qui est à la fois la médiathèque, le musée, la salle spectacle de Deauville, salle de spectacle qui est aménagée dans une ancienne chapelle. Voilà, on peut y donner des spectacles, mais on peut aussi donner des balles chorégraphiques, des balles théâtralisées, des balles participatives. Et puis, la grande idée aussi, c'était de ne pas cloisonner les collections du musée et les collections de la médiathèque. Ce qui fait que, paresseusement, on aurait pu mettre la médiathèque au rez-de-chaussée et le musée au premier étage. Eh bien non, on a complètement réorganisé la présentation et la répartition des livres de façon à ce que chaque livre résonne avec des tableaux. Chaque tableau résonne avec des livres. Tout ça dialogue dans des espaces où le mobilier est accueillant et surtout dans un lieu de culture qui est ouvert sans interruption de 10h30 à 18h30 les soirs sans spectacle.
Alors, en plus de cette porosité dont vous venez nous parler, il y a l'exposition en ce moment Kiss Van Dongen. Et Kiss Van Dongen et Deauville, c'est une grande histoire d'amour, une histoire d'amour au long cours. Pendant 50 ans, le peintre va faire de cette ville son motif principal. Alors, est-ce que c'était une évidence pour vous d'exposer ces différentes périodes de son œuvre ici aux Franciscaines ?
Alors, vous savez, moi, je suis arrivé un jour à Deauville, j'étais pas Deauvillais. Et en parcourant les couloirs de la mairie, je tombais sur des caricatures de Van Dongen à Deauville, des photographies de Van Dongen à Deauville. Cette présence récurrente de Van Dongen m'a intrigué Et un jour, en voyant une exposition vandenguienne à Monaco en 2008, une grande rétrospective qui a eu lieu là-bas, en la visitant, j'ai mesuré la place que Deauville occupait. Par la suite, j'ai sympathisé avec le commissaire de cette exposition, qui était directeur du musée de Monaco, qui m'a révélé, ce que je ne savais pas, que Vandenguen, effectivement, avait fréquenté Deauville de 1913 à 1963. Donc je crois que dans l'histoire de la peinture, la familiarité et la fréquentation d'un même lieu par un peintre sur 50 années, il y a peu d'exemples, hein. On parle de l'école de Pont-Aven, mais ça n'a pas duré 50 ans. On parle de Collioure, avec la présence des peintres fauves, mais ça n'a pas duré 50 ans. Alors que Vandenguen, il arrive à Deauville en 1912, il y séjourne régulièrement de 1913 à 1963. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 61, on fête le centenaire de Deauville et on confie à Vandenguen le soin de réaliser l'affiche du centenaire et de faire partie du comité de parrainage du centenaire, alors qu'en fait, sur 100 ans, il en a partagé quasiment 50.
Alors le tango, les chevaux, la mode, les thèmes traversés par l'artiste lui permettent de travailler avec des palettes audacieuses. Est-ce que l'utilisation des couleurs est une caractéristique singulière de son œuvre ?
Ah oui, complètement. Non seulement les couleurs, mais la manière dont il réinterprète le réel. Parce que, effectivement, Vandenguen a été associé au départ à l'aventure fauve, mais par la suite, il va être un portraitiste extraordinaire, et puis il va surtout être un peintre qui, à Deauville, va restituer l'énergie des chevaux. Il avait une passion pour le cheval. Il y a ce fameux tableau du cheval Pie, un tableau monumental qui a toujours suivi Vandenguen dans tous ses ateliers, et qui est une espèce de projection de lui-même. Je pense qu'il, quelque part, il se sentait peut-être un peu étalon, mais en tout cas, il se sentait l'énergie, la fougue d'un cheval. Et puis les scènes de bain, et puis ce rapport à la lumière. Et ce qui est amusant, c'est que la première fois qu'il met les pieds à Deauville, il découvre une plage de sable, des grands ciels, des vastes étendues, et il dit « ça me fait penser à ma Hollande natale ». Et c'est pas la première fois que j'entends cette expression, c'est-à-dire cette familiarité, cette singularité, cette ressemblance de toute cette plage de la côte fleurie avec les plages du Nord et les plages de la mer du Nord.
Alors les 17 et 18 septembre prochains, les journées du patrimoine permettent, comme chaque année, aux Français de redécouvrir des lieux, de se réapproprier des monuments et d'apprivoiser des institutions. Comment les franciscaines vont-elles accueillir le public à cette occasion-là ?
Eh bien, on va accueillir le public déjà en lui proposant une promenade sur les pas de Vandenguen, parce que tous les lieux fréquentés par Vandenguen, le casino, le bar du soleil, les planches, les bains pompéiens, tous ces lieux existent encore et portent les mémoires et comme disait François Bott, écrivain, portent le fantôme de Vandenguen. Et puis on va également rendre hommage à une personne qui s'est fait remarquer sur les planches de Deauville en 1931, c'était en août 31, et Joséphine Baker promenait une femelle guépard sur les planches de Deauville, parce qu'au moment de l'exposition coloniale de 31, elle crée à Paris une revue qui s'appelait Paris qui remue, et Paris qui remue, elle avait une jeune guéparde comme partenaire sur scène, pour chanter « J'ai deux amours ». Et pour promouvoir cette revue, elle avait eu l'idée avec Henri Varna, qui était producteur et auteur de la chanson, de se promener sur les planches de Deauville pour faire venir les photographes. Donc 1931, Joséphine Baker se rend à Deauville. Ça fait plusieurs années qu'on voulait lui rendre hommage, d'autant que Joséphine Baker a fréquenté Deauville pendant 40 ans. Elle est venue régulièrement se produire en chanson. Et à la fin de sa vie, avec les difficultés qu'on sait qu'elle traversait, Lucien Barrière, qui était très proche et très ému par la situation de Joséphine Baker, l'avait invité à chanter pour le gala du Nouvel An de 1971. Vous voyez, 31-71... Il y a une traversée de 40 ans de Joséphine Baker à Deauville. Et il y a un nouveau quartier à Deauville en face de la gare qui a sorti de terre ces 10 dernières années, qui s'appelle le quartier de la Presqu'île. Et Philippe Augier, maire de Deauville, a eu cette belle idée de donner à chaque rue de la Presqu'île, qui est féminin, le nom de femmes qui ont marqué l'histoire de Deauville. Donc il y a la place Françoise Sagan, il y a la place Gabrielle Chanel. Et samedi 17 septembre, on inaugurera la place Joséphine Baker, très symboliquement, au pied d'un belvédère tourné vers le large d'où est arrivée un jour Joséphine Baker avec ses trois vinaigres qui l'a rendue célèbre du jour au lendemain.
Merci beaucoup Philippe Normand.
On a pris plein de notes, merci beaucoup Marie Sorbier. Et chaque vendredi, cette saison, nous prenons des nouvelles d'artistes en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis. Ce programme, piloté par Gaëtan Bruel, qui propose des résidences sur mesure à des artistes de toutes disciplines. Et nous en parlons ce soir avec le compositeur Roque Rivas, qui est en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, un grand merci pour l'invitation à votre émission.
Bah, D'abord, bonheur d'entendre votre voix et votre accent, puisque vous êtes franco-chilien, compositeur, vous avez fait vos études supérieures en France, dans les grands conservatoires de Lyon et de Paris, un travail qui cherche à établir, expliquez-vous, un dialogue entre l'écriture instrumentale et l'électro-acoustique. Alors ça vous amène à vous intéresser évidemment aux sciences, aux arts plastiques, principalement et singulièrement à l'architecture. Cette discipline a nourri plusieurs de vos œuvres. Alors, pour commencer, quel projet avez-vous soumis pour venir en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis, Roque Rivas?
Et, en fait, les projets, c'est, je expliquais un peu l'histoire, c'est en 2020 que j'ai reçu une invitation pour envoyer une candidature à la Villa Albertine pour une résidence artistique d'entre 1 et 2 mois, donc c'est une période assez courte. C'est dans ce cadre que j'ai proposé un projet plutôt de recherche et de création autour d'un concept qui s'appelle la synergie, ou plutôt synergetics en anglais, qui est issu de la pensée du chercheur et inventeur américain Richard Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, c'est un personnage assez important dans le XXe siècle. Il était une espèce de self-made man, typiquement américain, et qui a travaillé dans les domaines du design, mais aussi c'était une espèce de visionnaire technologique. Il a eu une influence forte sur des créateurs comme Norman Foster dans les domaines de l'architecture, comme Neri Oxman dans les designs, des artistes comme Isamu Noguchi, qui était son grand ami, ou aujourd'hui Olafur Eliasson, des philosophes comme McLuhan ou Sloterdijk, ou des personnages de Silicon Valley aujourd'hui comme Steve Jobs et Elon Musk. Pourtant, il n'a pas eu une influence dans les domaines de la musique, parce que ce n'était pas du tout en fait, son champ. Et il avait des contacts avec John Cage, mais pour la première fois, je pense qu'on essaye de faire quelque chose à partir de sa pensée.
Alors votre question, justement, qui arrive à se lier à cette pensée de Fuller, c'est de savoir comment ce concept de synergie peut contribuer justement à nourrir ce dialogue dont on parlait tout à l'heure, entre le matériau sonore, entre les systèmes de spatialisation audio. Comment est-ce que vous allez procéder? Comment est-ce que vous commencez à procéder pour chercher la réponse?
D'accord. D'abord, je vais expliquer simplement qu'est-ce que c'est, grosso modo, la synergie. En fait, c'est un système de pensée holistique qui permet de résoudre des problèmes complexes à partir des structures spatiales. En fait, c'est une stratégie qui implique commencer par la totalité d'une structure pour ensuite analyser des diverses parties, sachant que la totalité n'est pas forcément égale à la somme des parties isolées. Or, lorsqu'on travaille la spatialisation de son, c'est-à-dire faire la diffusion des sources sonores, par exemple un son qui peut se balader dans un espace, ou recréer une acoustique d'une salle de concert, d'une cathédrale, on travaille également sur des systèmes qui sont assez complexes et des structures en fait spatiales qui possèdent certaines caractéristiques. Donc j'ai établi un contact, et c'est ça un peu les principes de mon séjour à la Villa Albertine, qui dans une première phase, c'était la rencontre des théoriciens, architectes et designers qui travaillent dans des universités et institutions américaines d'importance, qui en ont suivi l'influence de Fuller, et qui m'ont permis d'établir des liens entre ce domaine de audio-son et la question justement de la pensée plutôt géométrique et du design de Fuller. Et dans l'actualité, je suis dans une deuxième phase, qui est plutôt la création, et si vous voulez, on parlera de ça, d'une structure avec un architecte designer américain.
Alors déjà, c'est du concret, mais vous êtes actuellement à New York, vous serez la semaine prochaine à Boston, je crois. Qu'est-ce que vous faites dans ces deux villes?
Effectivement, bon, je suis actuellement à New York, dans les quartiers des Murray Hill. Ici, j'ai fait fondamentalement la recherche, c'est-à-dire j'ai des rendez-vous avec des personnes, soit des personnes que, comme je vous disais, des professeurs à l'Université de Columbia, comme Mark Wigley, ou des anciens collaborateurs de Buckminster Fuller, comme Thomas Teka Sung. Et à Boston, ce sont mes interlocuteurs avec lesquels j'ai fait mon projet, que c'est particulièrement un architecte et mathématicien qui s'appelle Andrew Witt, qui est professeur à l'école de design et architecture à l'université de Harvard. C'est pour ça qu'il habite à Boston, à Massachusetts. Et il était directeur de la recherche pour Frank Gehry. Il a travaillé notamment pour la fondation Louis Vuitton à Paris. Et nous travaillons ensemble pour ce projet, qui ça va être une installation sonore et avec des lumières LED qui sont comme des espèces des prismes de lumière, hein, qui suivent des modèles mathématiques des patterns qui nous permettent de réaliser, par exemple, la distribution des lumières et des sources sonores en même temps et qui sont reliées dans cette pensée holistique fullerienne.
Et on retrouvera là les trois principes fondateurs du design synergétique fullerien. Légèreté, adaptabilité, mobilité. Vous pensez en quelques mots, Roque Rivas, que cette installation sera finalisée quand?
Et en fait, nous sommes presque à la fin, je parle la semaine prochaine à Boston, nous sommes presque à la fin de et les projets en totalité. Or, ensuite, nous avons une phase qui est très importante et que j'ai réalisé ici aussi à New York, c'est des contacts avec des institutions pour produire l'œuvre. Ce sont des installations qui coûtent beaucoup d'argent. Et la Villa Albertine aussi, c'est une manière de créer, établir un lien, en fait, entre des institutions françaises et des institutions américaines. Donc, de la part de la France, c'est bon, bien parti parce que j'ai l'IRCAM qui fait partie du centre Georges Pompidou, qui est déjà assez avancé, en fait, pour la production. Et de la part américaine, et par exemple, la semaine prochaine, je pars à l'IMPAC, qui est un institut qui est dans l'État de New York, mais à quelques heures de New York, qui serait intéressé à ce projet-là. Et aussi, on cherche d'autres institutions. Samedi, je pars en fait aussi à Bacon, qui est un nouveau centre culturel assez important. Et on essaye de voir s'ils seraient intéressés à produire cette œuvre.
Ben voilà, on fait nous aussi passer le message, contacter Roque Rivas, contacter la Villa Albertine pour soutenir ce projet qu'on a hâte de voir exister. Merci à vous et puis vendredi prochain, donc on prendra des nouvelles d'une ou d'un autre artiste en résidence à la Villa Albertine. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino.